Donc, Jésus est la résurrection et la vie. Ce matin, nous poursuivons donc notre série qu'on a initiée il y a quelques semaines de ça, sur les « Je suis » de Jésus, c'est-à-dire sur les différentes facettes de son identité. La semaine dernière, si vous étiez là, nous avons vu avec Manu Renard l'interpellation sur le fait que Jésus est le bon berger. Aujourd'hui, on change un peu de décor et pour comprendre, pour se poser cette question, qu'est-ce que ça veut dire « je suis la résurrection et la vie » quand Jésus dit ça. Nous lisons donc ce matin dans l'évangile de Jean, on sera au chapitre 11, des versets 20 à 44. Je vais faire la lecture et au fur et à mesure, si vous n'avez pas de Bible, au fur et à mesure de la prédication, de toute manière, j'aurai afficher les différents versets qui nous intéressent particulièrement. Je commence au verset 20. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » « Ton frère reviendra à la vie, » lui dit Jésus. « Je sais bien, » répondit Marthe, « qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. »« Je suis la résurrection et la vie, » lui dit Jésus. « Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. »« Crois-tu cela ?»« Oui, Seigneur, » lui répondit-elle. « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, » celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur, Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit, « Le maître est là, et il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ? » demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors, tous dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns remarquaient, « Il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu s'empêcher que Lazare meure ? » Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, » dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » Et voici pour ce matin. Donc Lazare est vivant. Très bien, gloire à Dieu. Ce passage se trouve au beau milieu du chapitre 11. Comme vous avez vu, on a commencé au verset 20, on a fini au verset 44, et un petit peu avant, un petit peu après. Très bien. Et ça nous raconte effectivement la résurrection d'un dénommé Lazare, qui se trouve être aussi le frère de Marthe et de Marie, qui sont des amis de Jésus. Voilà, pour définir le contexte des personnages. D'un point de vue global, à noter que si on sépare l'évangile de Jean en 2 grandes parties, on prend les 12 premiers chapitres qui relatent la mission publique de Jésus. La deuxième, ça va être plus centré autour de la passion, la mort, la résurrection. Nous sommes donc ici au chapitre 11, à l'apogée de la démonstration par Jean, par l'apôtre Jean, de l'identité de Christ. Ce miracle, donc la résurrection de Lazare, permet à Jean de conclure la présentation de l'identité de Christ. Dans cette volonté de la part de l'auteur, ce miracle est l'image de la propre résurrection de Christ qui est un fondement de la foi chrétienne. Tous les évangiles, les quatre, racontent la vie de Jésus. Toutefois, si vous avez l'habitude de les lire, vous avez vu que chaque évangile a un peu son style, son public privilégié et son objectif particulier. Jean, lui, a écrit cet évangile de telle sorte que le lecteur puisse s'identifier au disciple, au personnage globalement. Par cette identification, l'objectif est qu'ils soient, les disciples, du coup, que nous soyons, par extension, transformés par l'évangile. Dans notre passage, vous n'avez pas manqué de le voir, nous avons trois personnes. Je mets de côté les personnes qui se trouvaient là et dont on parle très peu. Nous avons Jésus, bien sûr, Marthe et Marie. Ce qui va nous intéresser ce matin, ce n'est pas tant le miracle de la résurrection, mais plutôt le dialogue qui se trouve entre Jésus et Marthe. Qu'est-ce que ce texte, qu'est-ce que ce dialogue nous apprend? Qu'est-ce qu'il y a dans ce récit qui ferait que nous nous identifions à Marthe? Et comment est-ce que la déclaration de Christ qui dit « Je suis la résurrection et la vie » s'articule à la fois avec ce qui se passe dans notre texte et à la fois avec l'enseignement de Jésus pour Marthe et du coup aussi, par identification, pour nous. C'est bon ? Ok, je vois des gens qui font ça, c'est bon. Allez, pour avancer sur ces questions, j'ai séparé la réflexion en deux grandes étapes. Première étape, en théorie, je crois, puis après, ce sera la vie maintenant et pour toujours. Donc, je vous remets les versets. Vous avez vu, il y a de la couleur, c'est super. Un aspect étonnant de ce texte, c'est l'attitude des deux sœurs envers Jésus. Je ne sais pas si ça vous a remarqué ça dans notre texte, mais leurs réponses sont à la fois un mélange entre de la foi, il y a de la foi, il n'y a pas de doute, mais il y a aussi des reproches. Et ça, c'est étonnant. Je lis les versets 21-22 de la part de Marthe et 32 pour la suite de la part de Marie. Marthe qui parle, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ici, on a du reproche. « Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Clairement, de la foi. Et du coup, voyons Marie. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds. Un geste, a priori, qui montre sa foi. Et elle lui dit à son tour, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Comme pour sa sœur, on retrouve le même reproche. Clairement, elles en veulent à Jésus de ne pas avoir pu sauver Lazare, car il aurait pu le faire s'il était arrivé un peu plus tôt. Mais il était en retard. C'est dommage. Cela sous-entend donc que Jésus ne peut plus sauver Lazare, que c'est trop tard. Jésus ne serait donc qu'un simple médecin, car d'après la foi de ses deux sœurs, il peut guérir quelqu'un. Toutefois, malgré toute leur foi en Jésus, ne serait donc pas assez fort pour vaincre la mort. C'est too much. Vaincre la mort, est-ce trop difficile à faire pour Jésus? Nous qui avons la suite de l'histoire, on se dit que non. Ou est-ce que finalement, est-ce que c'est trop difficile à croire? La résurrection de Lazare est une image de la propre résurrection de Christ plus tard dans le récit. Les récits précédents, donc de tous les 11, 10 premiers chapitres de Jean, ont déjà pu prouver que Jésus est déjà plus fort que la maladie, qu'il est plus fort que le handicap physique, qu'il est plus fort que les esprits mauvais. Ça lui fait déjà un paquet de cordes à son arc. Dans cet ultime miracle avant sa propre résurrection, Jésus vient dire, en plus du reste, je suis plus fort que la mort. Visiblement, dans la compréhension de Marthe et de Marie, leur foi n'avait pas encore franchi ce cap. Il y a ces crescendo de toute manière. Elle n'avait pas accepté que Jésus puisse aussi vaincre la mort. Si seulement il était arrivé quelque chose, arrivé plus tôt, pardon, là, il aurait pu faire quelque chose. Ce qui paraît étonnant, c'est qu'on a quand même une bonne compréhension, du moins théorique, de Marthe, quand elle affirme par la foi que que Lazare ressuscitera à la fin des temps. Ainsi, au verset 27, elle affirme sa foi de manière claire et nette. « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans ce monde. » Je l'ai dit, cet évangile est écrit afin que le lecteur s'identifie au personnage. Suite à cette déclaration de foi de Marthe, nous nous identifions à elle un peu par comparaison. Et moi, que pourrais-je répondre à Jésus si j'avais été à la place de Marthe à ce moment-là? Est-ce que j'aurais osé lui reprocher de ne pas avoir été là pour sauver mon frère? Est-ce que, comme Marthe, j'ai une foi dans des promesses lointaines qui ne trouvent pas forcément d'écho dans mon quotidien? Voici quelques promesses de Dieu qu'on retrouve dans la Bible. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Comment est-ce que vous recevez ces promesses? Sont-elles pour vous des promesses théoriques distantes, ou est-ce que ce sont des promesses que vous arrivez à vivre au quotidien, qui trouvent un écho dans ce qui se passe pour vous tous les jours? Il y a des promesses qui sont peut-être plus difficiles que d'autres à confronter au monde réel, à ce qui m'entoure, à mes relations dans la journée, à mes défis de la semaine. Il faut se mettre à la place de Marthe. Elle venait de voir mourir son frère. Elle l'avait mis au tombeau. Et elle l'avait pleuré pendant 4 jours. La disparition de son frère est terriblement concrète dans les jours qu'elle vient de vivre. Face aux événements, aux signes peu encourageants, aux tentatives ratées, il est difficile de se rattacher aux paroles de Dieu qui promettent l'inverse de ce que nous avons sous les yeux. Que faire dans ce cas? Je n'ai pas vraiment de solution miracle. Je dirais s'accrocher à ses promesses. Se convaincre d'une part qu'elles sont vraies et que d'autre part, si l'Éternel le souhaite, elles peuvent devenir réelles dans les minutes qui suivent. Dans mes lectures personnelles, je suis en train de lire les récits du retour d'exil. C'est bluffant de voir que des personnes qui sont en déportation, qui sont nées en déportation, qui n'ont jamais vu la terre d'Israël, qui sont aussi très bien intégrés dans leur société à distance d'Israël, s'accrochent aux promesses du retour du peuple déporté à Jérusalem. Des promesses qui leur sont complètement étrangères, mais ils s'y accrochent à fond. Ils ont cru dans des promesses qui sont à l'opposé de leur quotidien. Et moi, est-ce qu'il y a une promesse que j'ai du mal à intégrer dans ma vie de tous les jours? Alors moi, je vous laisse un petit défi parce que je ne peux pas répondre à votre place à cette question. Dans vos prochaines lectures, quand vous lirez une promesse de Dieu qui vous paraît, entre guillemets, un peu trop belle pour être vécue tous les jours, qui vous dit « celle-là, elle n'est pas pour moi », eh bien, notez-la sur un petit bout de papier et laissez-le à un endroit où vous pourrez le voir fréquemment. Croyez que les promesses de Dieu sont vraies et qu'elles sont à vivre au quotidien, et pas dans une autre vie, et pas que pour les autres. Revenons-en à notre sujet principal. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Est-ce que c'est une promesse lointaine ou est-ce que c'est une promesse pour maintenant ? Cette question sera le point de départ de la seconde partie de mon message, c'est maintenant et pour toujours. Alors oui, effectivement, vu le titre, la réponse à la question que je viens de poser, vous devez l'avoir. La réponse de Marthe, elle, laisse planer un doute, car elle renvoie aux promesses de l'Ancien Testament. Jésus est le Christ, le Messie. Elle reconnaît donc par là qu'il est le roi, le prophète, le prêtre par excellence qui avait été annoncé par Moïse. Pourtant, elle ne croit pas qu'il puisse ressusciter Lazare. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Dans le verset 39, elle annonce qu'après plusieurs jours, le corps de Lazare est probablement en putréfaction. Au verset 22, la foi de Marthe semble profonde, mais le verset 39 montre que le concret, le réel, le factuel la retient dans ce qu'elle est prête à accepter par la foi. Et ça, c'est ce que nous avons vu dans notre première partie. Regardons donc la réponse de Christ, car comme toujours, la réponse de Jésus est terriblement pertinente vis-à-vis du défi spirituel auquel fait face son auditeur. Il lui répond qu'il est la résurrection et la vie. Si de cette déclaration on se limite à une compréhension, chronologique, nous nous limitons à penser que la vie dont parle Christ est l'éternité qui suit notre propre résurrection à la fin des temps. Toutefois, il me semble un peu dommage de se limiter à cette compréhension car nous sommes déjà en vie. Je vais vous aider. Je prends une image de bricoleur. L'entreprise Facom produit des tournevis et d'autres outils de bricolage qui sont si solides qu'elle offre avec le produit, une garantie à vie. Cela veut dire que si j'achète un tournevis de cette marque, que je ne sais pas comment, mais j'arrive à le casser, je les contacte et j'ai de nouveau un tournevis neuf garanti à vie. Du coup, dès que j'ai acheté l'outil la première fois, j'ai la certitude de toujours l'avoir à ma disposition. Je peux donc dès à présent ne plus me soucier de savoir jusqu'à quand est-ce que je pourrais utiliser ce tournevis. Et me lancer, bien entendu, du coup, dans des projets de bricolage les plus fous. Bon, avec juste un tournevis, vous irez pas loin, mais c'était pour l'image, hein, comprenez. Pour en revenir à ce que dit Jésus, Dieu nous offre en conséquence de notre foi une garantie à vie de notre vie. Jésus, dans le chapitre 3, au verset 15, dit ceci en parlant du sacrifice de Christ. Pour que tous ceux qui placent leur confiance dans le Fils de l'homme aient la vie éternelle. Aient la vie éternelle. Le verbe ici est au présent du subjonctif. Il n'y a pas de précision du style « et à la fin des temps, et plus tard, et après leur mort ». Comprenons que la vie éternelle ne commence pas à la fin des temps, après le retour de Christ. Elle a déjà commencé, nous la vivons déjà. Et je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Quand nous pratiquons l'acte du baptême, nous symbolisons la mort de notre ancienne vie et le début d'une nouvelle. N'est-ce pas ça, la définition d'une résurrection ? Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Nous pourrions tout aussi dire qu'il est la résurrection et la vie, et la résurrection et la vie, pour être complet. Pour faire simple, contentons-nous d'oublier que notre corps actuel va finir par mourir et ainsi admirons que nous avons déjà vécu une résurrection et que nous vivons actuellement la vie éternelle. Et cette simplification vient pas de moi. Quelqu'un qui s'appelle Jésus a fait la même au verset 26. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Maintenant que nous savons que nous avons, que nous vivons pardon, déjà la vie éternelle, qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien ? C'est la question que Jésus a posée à Marthe dans notre chapitre. Et c'est peut-être encore plus le cas dans le chapitre suivant, avec cet épisode que vous connaissez peut-être, où Marie verse le contenu d'une bouteille de parfum sur Jésus. Vivre déjà la vie éternelle, qu'est-ce que ça change ? Avoir la vie éternelle devant nous devrait nous permettre d'adopter une attitude différente que nos contemporains sur plusieurs thèmes. Je ne suis pas exhaustif dans mes thèmes, et donc bien que nous ayons des sensibilités différentes, je démarre juste ici quelques pistes de réflexion qui vous parleront peut-être, et que vous aussi pouvez laisser mûrir, mais si vous en avez d'autres, comme je le dis, je ne suis pas exhaustif. Le premier thème que je vous propose, c'est la mort. À la lecture du texte, c'est ici le sujet qui ressort, clairement. Cette réaction, quelle réaction ont Marthe, Marie et Jésus face à la mort de Lazare ? Ce n'est pas un moment joyeux. Le deuil, ça reste une épreuve difficile, même si on sait que le défunt avait remis sa vie à Christ. Dans notre texte, même Jésus, dans toute son humanité, a été touché par le deuil de Lazare. Marthe et Marie, bien qu'elles croyaient à la résurrection de la fin des temps, en voulaient à Jésus de ne pas avoir été là à temps. Aucun de ces trois personnages n'est donc particulièrement heureux de ce qui se passe. On navigue entre reproches, espérance et tristesse. Notons donc que l'espérance dans la résurrection peut être un témoignage fort autour de nous. Pardon, je me suis perdu. Pour le chrétien, Jésus a déjà vaincu la mort. Le départ d'un être cher laisse un vide. Et sans la foi, il n'y a rien à mettre dans ce vide. Notre société post-industrielle s'est inventée tout un tas de trucs. Des médicaments, des objets, des conseils, des services pour combler tous les besoins et tous les désirs. Mais je pense qu'elle n'a absolument rien à proposer vis-à-vis du deuil. Nous avons la foi à proposer. Et c'est clairement la bonne réponse à apporter à cette souffrance. Second thème, la gestion de mon temps. Avoir l'éternité devant soi laisse quand même un paquet de temps pour réussir sa vie. Alors pourquoi, et moi le premier, courons-nous après le temps au boulot et à la maison ? Nous vivons dans une société où tout va vite. Les déplacements vont vite, les tâches ménagères vont vite, en tout cas, on les délègue à des machines pour le faire à notre place, et l'information va excessivement vite. Malgré nous, je crois que nous sommes aussi incités par cette société à aller aussi vite que le reste, à pouvoir suivre la cadence. Pourtant, nous avons tout notre temps. Ne devrions-nous pas revoir nos priorités, ralentir, profiter calmement de notre journée avec Dieu ? Quelle est l'organisation de vos temps avec Dieu ? Dans l'ordre des priorités de notre quotidien, je nous encourage à garder un temps journalier dédié à écouter Dieu par la lecture, la prière ou même le silence. Toutefois, que ce temps qu'on lui consacre ne nous dédouane pas de vivre le reste de notre journée avec Dieu. 15 ou 30 minutes par jour avec Dieu, c'est loin, très loin d'être suffisant. Entre le moment où nous réveillons le matin et le moment où nous nous endormons, nous devrions être avec le Seigneur. Je vous invite à réfléchir à tous les moments que vous vivez dans une journée. À regarder si, dans ce moment-là, vous laissez de la place à Dieu pour vivre ce moment avec vous. Et si ce n'est pas le cas, à réfléchir comment vous pourriez le laisser participer à ce moment. L'exercice n'est vraiment pas simple. Et je crois que globalement, ce n'est pas forcément de notre faute si ce n'est pas simple. Nous vivons dans une société qui est complètement déspiritualisée. Et c'est à nous, puisqu'on est les seuls à avoir ce besoin de vivre une journée avec Dieu, d'être malins et ambitieux pour inviter Dieu dans nos journées. Troisième thème, écologie et politique. Si personne n'a encore trop parlé de fin du monde, on est sur des discours alarmistes, mais disons qu'on n'a pas encore parlé de fin du monde, les prochaines dizaines d'années annoncent de grands changements. Dieu nous a promis, avec la résurrection et la vie éternelle, une terre restaurée et un monde sans péché. Dans un monde qui part à volo, où nous ne pouvons qu'être déçus des choix court-termistes, injustes et égoïstes faits par des entreprises, par des politiques du monde entier, nous, chrétiens, pouvons espérer qu'un jour nous revenions à ce que Dieu avait prévu initialement. Il sera le roi, parfaitement juste et bon de son peuple. De plus, cette terre qui est promise à un avenir difficile sera restaurée comme au Jardin d'Éden. Nous vivons actuellement dans un monde où gouverneurs et gouvernés sont pécheurs. Pourquoi attendre de cette société qu'elle pratique une justice et une bonté sans reproche? À la place, accrochons-nous à l'espérance qu'un monde parfait nous est promis. D'autres choses qu'à vous proposer qu'un peu de patience et de foi. Pour conclure ce message, je vais laisser le micro à Hervé. Et pendant qu'il me rejoint et que l'équipe de Louange se réinstalle, je vais vous rappeler ce que nous avons vu ce matin. La première partie s'intitulait « En théorie, je crois ». Et ce récit nous encourage à croire dans toutes les promesses de Dieu, surtout dans celles pour lesquelles nous avons du mal à imaginer notre vie de tous les jours. La seconde partie était centrée sur cette déclaration « Jésus est la résurrection et la vie ». Nous comprenons que par la foi en Christ, nous avons déjà acquis la promesse de la résurrection. Même si notre corps actuel est amené à mourir, par cette promesse, nous vivons déjà la vie éternelle. Cette vision d'éternité devant nous, nous sommes motivés à revoir différentes facettes de notre quotidien, notamment notre relation à la mort, notre gestion du temps et notre espérance dans un monde parfait à venir.